BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs aujourd'hui qui vous feront part, comme chaque semaine, de leur moisson de livres et d'études qui nous parlent du futur, du passé ou qui nous parlent d'ailleurs. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux, librairie de l'écho, que ce soit sur X, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, pour trouver toute la programmation, toutes les références des livres, des vidéos et bien plus encore. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. Ah, elle est abondante, la littérature sur l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, dans la librairie de l'écho, on a décidé de se concentrer sur ses usages concrets. Dans l'entreprise d'abord, comment la mettre en place? Comment apprendre à travailler avec quel impact sur la productivité, sur l'emploi, sur la qualité des biens et services produits? Et puis, au-delà de l'entreprise, comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à relever le grand défi du climat, elle qui est surtout accusée de lui porter préjudice? Réponse avec nos deux invités. Stéphane Roder, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Stéphane, vous dirigez IA Builders, le cabinet de conseil spécialisé sur le volet Data IA de la stratégie des entreprises, et vous publiez L'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est la deuxième édition, je crois, aux éditions Erol. Et puis Gilles Babinet, bonjour.
Bonjour.
Gilles, vous êtes le coprésident du Conseil national du numérique, le digital champion de la France auprès de la Commission européenne, et vous publiez Green IA aux éditions Odile Jacob. C'est quoi le digital champion de la France?
En fait, au départ, ça a été créé pour représenter la société civile, c'est-à-dire les gens du numérique, auprès des institutionnels à la Commission.
Allez, on commence avec vous, Stéphane Roder, pour voir comment l'intelligence artificielle pénètre l'entreprise. Vous dites, au départ, dans votre livre, l'entreprise, elle est encore très largement ce que vous appelez en mode manuel.
Et oui, il y a encore beaucoup de traitements qui se font à la main. Il y a des parties entières de l'entreprise qui n'ont pas été digitalisées, ne serait-ce que, regardez les ressources humaines, hein, elles ont très peu bénéficié de la digitalisation. Et de la même manière, quand on regarde les stocks, comment des stocks sont prévus l'année d'après,
ouais,
on regarde plutôt un peu l'année d'avant. Mais malheureusement, ce n'est pas ça la réalité analytique des choses. Avec de la donnée, avec de l'intelligence artificielle, on est capable de faire de la prédiction. On est capable d'automatiser des process.
Alors, je vais vous sans doute vous poser la question que tous les gens qui viennent vous voir vous posent. C'est-à-dire, je dirige une entreprise. Concrètement, par où on commence avec l'intelligence artificielle?
Eh bien, on commence d'abord par se poser la question de ce qu'elle peut amener à mes objectifs stratégiques. Et ça va permettre, en fait, de prioriser les endroits où on va mettre de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il faut que cette technique vienne servir les objectifs de l'entreprise, servir les objectifs stratégiques. Et donc, on va aller chercher de l'efficacité opérationnelle où on va générer des revenus en fonction du besoin en fait, de l'entreprise à court terme. Parce que finalement, c'est des choses qui s'installent assez rapidement, entre 3 et 6 mois, et qui permettent de venir réussir les objectifs de l'entreprise.
Vous dites, l'IA, c'est un enabler. Ça veut dire quoi?
C'est un enabler dans le sens où ça permet de faire des choses, ça permet de réaliser. Et on parlait d'enabler, on parle d'enabler depuis longtemps, hein, mais ce sont en fait des techniques qui permettent de venir réaliser des tâches dans des process ou venir réaliser des assistants.
Alors, j'imagine qu'il y a quand même tout un tas d'accompagnements qui sont nécessaires. Vous dites que ça peut se faire entre 3 et 6 mois. Et en même temps, dans votre livre, on voit à quel point ça impacte finalement toutes les fonctions de l'entreprise.
Oui, c'est pour ça qu'il faut faire des choix. Il faut absolument faire des choix qui sont drivés, encore une fois, par les objectifs business de l'entreprise. Et après, une fois qu'on a fait ces choix, c'est vrai qu'il faut mettre en place une organisation qui permet de délivrer, de déployer de manière industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on voit au fur et à mesure que ces modèles rentrent au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur du moteur, au même titre que l'outil de production. Ce sont juste des optimisations de l'outil de production, que ce soit l'humain ou des chaînes de production. Et finalement, il ne faut pas que ça s'arrête. Et donc, il faut absolument que ça soit déployé de manière industrielle. Et c'est ça, peut-être, qui aujourd'hui peut être compliqué pour les organisations, c'est de prendre conscience que ça ne se déploie pas en claquant des doigts. Ce n'est pas non plus des produits sur étagère, comme a pu nous le faire croire ChatGPT. C'est malheureusement encore des choses qu'il faut développer, déployer, mettre au point.
Parce que la vision, en fait, la vision que beaucoup d'entreprises en ont, c'est que pour le moment, en fait, chacun bricole derrière son petit ChatGPT. Et puis, alors effectivement, on réussit à travailler un peu mieux, un peu plus vite. Mais on est d'accord, c'est pas ça l'intelligence artificielle dans l'entreprise.
Non, ChatGPT, c'est un démonstrateur. Ça a permis à tout le monde de prendre conscience de la puissance qu'il pouvait y avoir. Maintenant, on se pose la question de comment on va équiper le collaborateur. Et un collaborateur, finalement, ça a quelques tâches. Ces tâches correspondent à des cas d'usage. On va faire le choix, en fait, de l'équiper ou pas avec des modèles, mais des modèles qui vont être adaptés aux cas d'usage, qui vont aussi consommer le moins possible et qui vont avoir un coût, je dirais, compatible avec ce cas d'usage. Parce que si on augmente l'efficacité opérationnelle, il ne faut pas que ça soit ni au détriment du coût, ni au détriment de la partie RSE, que ça consomme beaucoup. Il faut voir que ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres pour GPT 3.5, apparemment 1000 milliards peut-être pour GPT 4. On ne peut pas se permettre d'allumer un quartier de Paris à chaque fois qu'on pose une question. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a des petits modèles très spécialisés et on va équiper les collaborateurs avec, comme les applications sur vos iPhones.
Alors, justement, on se dit, est-ce qu'il faut avoir un plan extrêmement construit, préétabli et le suivre, ou alors est-ce qu'en fait, l'intégration réussie de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'expérimentations ?
L'expérimentation, on l'a fait ces 4 dernières années. Maintenant, on sait ce qui fonctionne. C'est vrai qu'on est encore un peu en train de tâtonner avec l'IA générative et le passage, en fait, des gros LLM, des gros large language models aux small language models, les modèles verticaux. Les gens ont du mal à comprendre en fait comment ça se verticalise et comment on va équiper. Et après, on a des petites problématiques, je dirais, de gestion de l'erreur, parce que l'IA générative n'est pas très déterministe, mais on y arrive.
Mais vous voyez où je veux venir. Si je vous pose la question, c'est parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas quand même plus simple à mettre en place dans des très grosses entreprises que dans des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens de tâtonner, quoi.
Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai parce que ça coûte encore cher à déployer, ça coûte encore cher à mettre au point. Et, encore une fois, il y a eu cette vision un peu fantasmagorique du produit disponible. Malheureusement, le produit n'est pas là. Par contre...
C'est pas Excel, quoi. C'est pas Windows.
Alors, justement, on a quand même Microsoft qui fait un effort énorme, qui est un éditeur extraordinaire, qui est en train de productiser l'intelligence artificielle. Regardez... Copilot 365 qui vient s'intégrer à la bureautique, c'est extraordinaire, c'est un vrai produit, c'est sur étagère. Et donc on peut espérer, surtout avec ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils appellent le GPT Store, qui est finalement l'App Store de l'intelligence artificielle, qu'on va avoir des modèles verticaux. Regardez Dalloz a sorti un modèle sur lequel vous pouvez consulter et même recevoir des explications juridiques. Eh bien, on peut penser que tous les éditeurs vont sortir en fait des applications basées sur des modèles d'intelligence artificielle et que vous, en tant que collaborateur, vous pouvez faire vos choix, aller chercher vos modèles.
Alors, la question, je ne peux pas ne pas vous la poser, vous qui voyez comment ça se passe au quotidien. Est-ce que l'IA, c'est toujours autant d'humains et de la performance augmentée, ou est-ce que c'est de la performance augmentée avec moins d'humains? En gros, est-ce que l'IA, c'est plus de productivité? Est-ce qu'il faut s'attendre à des suppressions massives d'emplois? Lesquelles?
Il faut pas se... On va avoir, une, comme pour la bureautique, on va certainement avoir 10% de suppression d'emploi. On l'a vu hein, directement dans le SEO, dans l'Internet, dans le web marketing. Directement, il y a des postes qui ont disparu.
Ouais.
Il va y en avoir un peu. Par
et là, vous citez Dalloz, les conseillers juridiques, les avocats.
Oui, mais... Ok, mais ils n'ont pas que ça. Ils ont pas que ça à faire. C'est des gens débordés. Peut-être que demain, ils vont mieux s'occuper de vous. Aujourd'hui, ce que l'on voit, et ne serait-ce que sur les call centers, les téléconseillers, quand on les équipe avec de l'IA, ils ont plus de temps pour entamer une relation avec le client. Et ils ont des meilleurs résultats. Le taux de satisfaction augmente. Ils ont la possibilité aussi de vendre de nouveaux produits. Et eux-mêmes, la qualité de travail, la qualité de vie au travail augmente. Et donc ça, finalement, c'est bénéfique pour tout le monde.
Est-ce que l'IA, c'est un facteur qui va doper la compétitivité d'une entreprise ?
Ah oui. Pourquoi ? Parce que on va réussir à réduire les coûts opérationnels, ouais. On va augmenter la qualité, on va certainement augmenter le rendement. Surtout, on va, et c'est une chose qu'on ne voit pas encore bien, mais on va baisser le coût du travail. Et aujourd'hui, la compétitivité, la relocalisation, la réindustrialisation...
Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce qu'on peut dire à l'échelle d'une entreprise sur la compétitivité, est-ce qu'on peut le dire à l'échelle d'un pays ?
Absolument.
Est-ce que l'IA, ça peut être un game changer pour la compétitivité d'un pays ?
Mais l'IA, c'est le game changer. Ça va nous permettre, au niveau du pays, de changer les coûts du travail et donc de relocaliser, de réindustrialiser et de garder, in fine, de garder notre modèle social.
Vous dites l'intelligence artificielle, pour terminer, c'est à imaginer au même niveau que ce qu'apporte à l'économie d'un pays des centrales nucléaires, à ce qu'apporte... des autoroutes. En fait, vous dites l'IA, c'est de l'infrastructure.
L'IA, c'est absolument de l'infrastructure. On ne peut pas imaginer une France sans le plan télécommunication, sans le plan nucléaire que nous avons eu. De la même manière, l'IA est un vrai moteur, en fait, de l'économie. Et si on n'a malheureusement pas ce plan et cette infrastructure, là, pour le coup, elle n'est pas matérielle, elle est digitale, elle n'est peut-être pas aussi tangible que ce ne l'a été. Mais il faut que notre gouvernement, en fait, nos politiques, aient cette vision, parce qu'il faut que notre économie, notre industrie, puisse s'appuyer dessus.
Gilles Babinet, alors je vais commencer par l'idée reçue que j'avais avant d'ouvrir votre livre, Green IA. Je me suis dit, ah, ça c'est un bouquin qui va nous expliquer que, bah oui, l'IA, évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie, et qui va nous expliquer comment, finalement, on fait une IA propre. Et alors, effectivement, vous commencez le livre avec un chiffre vertigineux que je cite. Les modèles les plus avancés d'intelligence artificielle aujourd'hui utilisent 5 milliards de fois la puissance de calcul des modèles de pointe d'il y a 10 ans. Ouais, 5 milliards de fois.
Et là, depuis, Sam Altman a énoncé le fait qu'il allait développer avec Microsoft un data center qui fait 5 gigawatts. 5 gigawatts, c'est c'est le 12e de la puissance installée nucléaire en France.
Et donc, on se dit, bah, tout ça, ça mange de l'énergie, et donc l'IA joue contre le climat.
Oui, factuellement, l'IA, c'est un facteur de consommation. Maintenant, ce que je dis dans la suite du livre, c'est que mon premier ordinateur, il faisait 415 watts, il avait 60 000 transistors.
Ouais.
Ça a 14 milliards de transistors. Et
ça c'est un téléphone portable, smartphone voilà. Pour nos auditeurs.
Donc c'est plusieurs, je n'ai pas fait le ratio entre 13 milliards de transistors et 60 000, il y a des gens qui savent calculer. Mais, et ça, surtout, ça consomme 3 watts. Donc les gains d'efficacité dans le domaine des LLM et au-delà de ça de l'intelligence artificielle, on est en train de les exprimer.
Ouais.
Il y a une semaine, Nvidia a annoncé une nouvelle génération de processeurs. D'ailleurs, c'est plus que des processeurs, c'est une architecture. Les gains d'efficacité, c'est un facteur 40 avec ce qui précédait, qui a 18 mois.
Ouais. Et en fait, donc tout ça pour dire que en fait, le but de votre livre, c'est pas du tout de montrer que l'IA, on peut faire une IA décarbonée, etc. Mmh. C'est qu'en fait, ce que vous montrez dans votre livre, c'est à quel point l'intelligence artificielle est aussi une solution majeure à la lutte contre le réchauffement climatique.
Ouais, c'est vraiment la thèse. D'ailleurs, je la porte depuis très longtemps, puisque je me suis rendu compte que j'avais écrit sur ce sujet il y a déjà 7 ou 8 ans. Mais je me suis dit, c'est évident qu'une technologie, je pense que ce que Stéphane montre, c'est qu'évidemment, ça amène des gains de productivité. Il y a quelque chose qui, moi, me semble vraiment important, c'est que ça abaisse les coûts de transaction. C'est-à-dire que quand vous avez deux informations qui sont dans deux silos et que vous voulez les rapprocher, bah, c'est assez difficile avec des moyens humains. Il faut qu'il y ait un opérateur qui le fasse, ce qu'on appelle du BPO. La technologie, l'intelligence artificielle, ça permet de faire en sorte que ça baisse beaucoup. Alors, un exemple concret, c'est quoi? C'est vous n'aimez pas prendre les transports en commun parce que quand vous arrivez à la gare, il n'y a pas de taxi. Alors, c'est vraiment bête. Dans le monde de demain, faire en sorte que les transactions entre le train, le taxi ou le vélo ou je ne sais quoi, ça soit quelque chose qui soit assuré et qui fonctionne, ça repose largement sur de l'intelligence artificielle.
Alors vous dites là où elle est particulièrement performante, l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, elle est forte partout. Elle est capable en fait d'avoir des usages multiples et elle est capable de s'habituer au traitement de multiples paramètres, ouais. ce qui est nécessaire quand on veut résoudre des problématiques aussi complexes que ouais. les problèmes climatiques.
Alors, l'exemple assez parlant, c'est celui de l'agriculture. Un agriculteur, c'est un data scientist qui s'ignore. C'est-à-dire que, avant, il doit décider le type de graines qu'il utilise, le type d'intrants, etc., en fonction des marchés mondiaux, du coût de la main-d'œuvre, du coût de l'énergie, etc. Pendant, il doit décider en fonction de la météo et de faire évoluer tout ça de façon très vite. Après, il doit décider quand est-ce qu'il va récolter, quand il va stocker, combien de temps il va stocker, quand est-ce qu'il va vendre, etc., sur le marché des futurs. Un agriculteur gère plusieurs milliers de paramètres, sur une saison. Il est incapable de les optimiser. Il optimise une vingtaine de paramètres parce que c'est le mieux qu'il peut faire. Puis le reste, il fait comme il peut. Et en fait, une IA, un modèle qui a été entraîné sur des data agricoles, est capable d'avoir une approche multivariée, optimale. Et on le voit, hein, je cite des exemples dans le livre, on double la productivité, on réduit à zéro les émissions de méthane, potentiellement, on réduit très fortement les émissions de protoxyde d'azote, de CO2 également. Ce sont des cas qui sont documentés.
Alors, honnêtement, quand on lit votre livre, on se dit, mais finalement, dans ce débat qu'il y a entre les tenants de ce que vous appelez le technosolutionnisme et puis les tenants de la décroissance, on se dit qu'on peut pousser assez loin le curseur quand même dans les nouvelles techno et pas beaucoup le curseur dans le sens de la décroissance, c'est-à-dire de l'effort en fait, qu'on devra faire pour changer nos comportements.
On va changer nos comportements massivement. Le truc, c'est que rouler dans une voiture tout seul, thermique, qui fonctionne 7% du temps et dans laquelle il y a en moyenne 1,3 passagers, c'est stupide. Et avoir construit 83% de l'espace public pour la voiture, c'est une aberration. Voilà, c'est ce qu'on a fait à l'échelle de tous les pays développés.
Ouais.
Et je pense que la nouveauté, ce que j'essaie d'amener, c'est de dire, en fait, les technosolutionnistes, leur erreur, c'est de refuser le changement d'usage, c'est de dire, je veux continuer à me balader dans mon humeur dans la ville. Mmh. Et les décroissants, leurs erreurs, c'est de refuser la technologie. Et le point de jonction entre les deux, c'est de dire, à condition de faire changer les usages, la technologie pourra nous permettre de décarboner.
Oui, mais vous voyez bien que là-dedans, tous les efforts ne sont pas à mettre au même plan. Vous citez par exemple les sacs plastiques. Bon, franchement, si demain on vous donne un sac qui est fait en fibre et qui est pas en sac plastique, vous bénéficiez de l'usage. Vous voyez, c'est pas un gros effort.
Ouais, c'est l'usage
sur le transport. Si on vous donne une voiture complètement propre, etc., bah finalement, l'enjeu, c'est de se déplacer. Mm-hmm. Vous voyez, c'est... Donc il y a quand même des limites qui sont très dures à franchir en matière de changement de comportement.
Je vais vous donner un truc évident, c'est le véhicule autonome.
Ouais.
Le véhicule autonome, on disait jusqu'à peu, ça va arriver bientôt. Et puis maintenant, on dit ça n'arrivera plus. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça va arriver plutôt dans les 5 ans qui viennent. Pour des raisons simples, c'est que quand je parle au CTO de Waymo, il me dit les coûts s'effondrent d'un facteur 2 tous les 10 mois. Et donc, on part de 100 000 dollars il y a un ou deux ans, on arrivera aux alentours de 5 000 dollars aux alentours de 2028. Et par ailleurs, la performance croît de façon forte. À partir du moment où vous avez un véhicule autonome, quel est l'intérêt de posséder une voiture? Si tout le monde a des véhicules autonomes, ça sert à rien. En fait, vous te laissez votre voiture, ou plutôt vous avez un abonnement de type Uber, vous sifflez une voiture...
Ah, vous achetez un service, bien sûr.
Vous achetez un service,
ouais, bien sûr.
Voilà, exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous diminuez le taux de charge sur les infrastructures d'un facteur 7, là-dessus. Vous êtes plusieurs dans les voitures, parce que la voiture, bah, elle va chez votre voisin et elle vous dépose en passant. En gros, vous changez complètement l'usage.
Mais ça, c'est un truc qu'on nous vend, Et ça, vous pensez que ça va vraiment être notre quotidien. Vous terminez votre livre avec un chapitre assez génial sur la vie en 2040.
Ouais.
Alors ça en fait partie.
Ouais,
notre
ouais.
Notre quotidien en 2040.
Et regardez, la vitesse de mutation du cheval à l'automobile, c'est 20 ans. C'est, en gros, c'est 1910-1912. La Ford T, c'est 1907. Et en 1935, on commence à interdire les chevaux dans Paris. C'est vraiment très très rapide, quoi. Et donc, vous avez une technologie dont le coefficient de propagation est incomparablement supérieur à celui de la voiture, parce que c'est une technologie qui est par essence virtuelle. Donc, je pense que ça va aller assez vite.
Y a pas que la voiture, mais vous mettez le point. Hein, le transport, c'est vraiment le point le plus sensible en matière d'émissions.
C'est 35% des émissions.
Voilà. Et donc, alors, quand on met transport, on peut inclure aussi tout ce qui est logistique, etc.
Supply chain.
Et là, il y a aussi des progrès qui sont considérables.
Ah, c'est très impressionnant. Moi, j'accompagne des entreprises qui font des supply chain dans le domaine de l'alimentation. Si vous voulez que ça marche, vous êtes obligé de commander avant de savoir ce que veulent vos clients.
Ouais.
C'est-à-dire, ils vous ont pas encore commandé, vous êtes déjà en train de commander parce que la marchandise vous brûle les doigts.
Ouais.
Le plus vite vous en séparez, plus elle a de la valeur. Et donc, vous êtes obligé d'avoir des modèles qui sont complètement dynamiques, ce qu'on appelle des SCADA dynamiques, ce qui est un truc qui est une aberration dans le monde industriel normalement. Et ben, c'est ce que sont en train de construire ces sociétés. Et c'est des sociétés qui ont beaucoup de mal finalement à pénétrer parce que c'est tellement un contre-courant de ce qui a été construit par des SAP et consorts qu'elles ont du mal à se faire comprendre.
Question qui vaut pour tous les deux. Alors, on est d'accord. Vous nous dites tous les deux, on va vers un saut quand même de productivité, Gilles.
Ah oui, c'est... Alors, en passant, on n'a pas parlé, mais moi j'ai fait partie de la mission IA,
ouais.
Qui a été mandatée par l'ex-première ministre et qui a rendu son rapport il y a un mois. On a eu la chance de rencontrer tous les économistes qui travaillent sur les sujets de la productivité de l'intelligence artificielle. Et je veux dire deux choses. La première, c'est que effectivement, comme Stéphane l'a dit, il n'y a pas eu de gain productif comme celui-ci probablement depuis l'électricité. Donc 120 ans. C'est ce qui va se passer, ce qu'on va vivre dans les années qui viennent, c'est vraiment un truc qu'on vit une fois tous les 3-4 générations et encore. On va voir la productivité s'accroître de façon extrêmement forte. Deuxième aspect, sur l'emploi, je veux dire, assez franchement, si vous faites le consensus des économistes, on n'en sait rien. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas jusqu'où va aller l'IA, d'une part, on ne sait pas à quelle vitesse, et on ne sait pas la capacité d'adaptation des sociétés. On a juste des expériences qui sont très anciennes, qui datent de 1900-1920, et on ne sait pas si les sociétés actuelles sont capables de s'adapter aussi vite ou moins vite qu'à l'époque. Le consensus des économistes, c'est qu'il y a une peur schumpeterienne qui est assez classique, c'est-à-dire que les gens ont peur de perdre leur boulot, mais que si on fait ça bien, a priori, on est plutôt dans une... Il y a une forme de ruissellement de la distribution de la valeur créée.
Stéphane Roder, vous, dans l'entreprise, dans les entreprises que vous conseillez, c'est quoi les principaux freins, finalement, à la mise en place de l'intelligence artificielle ?
Bah, effectivement, hein, c'est un peu ce que dit Gilles, hein, ça peut être la peur, ça peut être l'incompréhension, donc il y a tout un travail d'acculturation et d'accompagnement au changement, mais effectivement, on va vivre un saut quantique, hein, puisque quand on met l'intelligence artificielle au bon endroit, on arrive à avoir des 20, 30, 40% d'amélioration de la performance, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, vous étiez un manager et que vous faisiez 4 à 8%, vous criez au génie. Voilà, 20%, on dit « ouais, c'est pas mal
». Gilles Babinet, est-ce qu'il y a un sujet sur, finalement, la nationalité des technologies qu'on utilise ? Honnêtement, l'Europe, en matière de fabrication, de création, d'invention, on n'est pas très bien parti. Est-ce que ça n'empêche qu'on peut être, on peut bien s'en tirer quand même en étant juste de grands utilisateurs de l'IA fabriquée par des Américains, des Chinois ?
Non, il y a un sujet de souveraineté et même de préservation de nos valeurs et de notre modèle social. C'est-à-dire que si ces technologies sont exclusivement importées, notre modèle va se déliter, parce qu'on sera forcé d'adopter le modèle anglo-saxon, voire américain, à cet égard, et le rattrapage de l'Europe est une question civilisationnelle. On peut pas le mettre autrement à cet égard. Maintenant, la question, c'est de savoir si il faut boycotter les solutions américaines ou pas. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut les adopter, mais avec une vision très claire, c'est d'être capable
De les customiser.
De les customiser, ouais. De reprendre la pente, et puis à un moment, d'être capable de les égaler.
Stéphane Roder, vous partagez ce point de vue ou...
Ah, tout à fait. On voit bien que les modèles d'IA génératifs sont des vecteurs, en fait, politiques et éthiques, puisqu'il y a un biais, en fait, de choix de l'éditeur. Et donc, on ne veut pas subir le choix, un choix californien, de politique californienne. On n'est pas libertarien. On a, nous aussi, en France, des valeurs démocratiques et éthique à défendre. Et au même titre que ce qu'on a vécu avec les films et Hollywood, eh ben, on ne veut pas avoir cette vague en fait, qui vient nous submerger. On veut que nos collaborateurs et aussi nos enfants, hein, après la calculette, ils auront une forme de ChatGPT dans les mains. Eh bien, on ne veut pas qu'ils subissent d'autres valeurs et d'autres éthiques.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Stéphane Roder, guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Deuxième édition post-ChatGPT. Et puis Gilles Babinet, Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, c'est chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, avec un casting assez original aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Et puis on démarre tout de suite avec nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, responsable de la rubrique livre d'Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, qui est aussi le critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est également le président. Et bah tiens, on commence avec votre choix, Jean-Marc Daniel. Vous nous emmenez au Japon. Le livre de Pierre-Antoine Donnet, Japon, l'envol vers la modernité.
Exactement, oui, c'est de nouveau un livre sur le Japon. On a déjà eu l'occasion d'aborder le sujet. D'ailleurs, la préface est rédigée par l'auteur du livre dont nous avons parlé précédemment.
La journaliste qui a épousé un Japonais.
Donc, l'auteur a été correspondant plusieurs années pour l'AFP à Tokyo. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'Asie. Et d'ailleurs, il explique que, en fait, au départ, ses premières amours étaient plutôt pour la Chine, mais que l'évolution du régime chinois l'a conduit à se tourner vers le Japon. Et donc le livre commence par une histoire du Japon en deux chapitres, une histoire assez longue sur le Japon depuis les origines, depuis la préhistoire jusqu'à l'ère Meiji. Donc là on apprend d'où vient le mot kamikaze. Le kamikaze c'est le vent qui détruit la flotte mongole au moment où au XIIIe siècle, les Mongols qui ont conquis la Chine s'apprêtent à conquérir le Japon.
Le vent.
Et donc le kamikaze, c'est celui qui détruit la flotte ennemie qui s'apprête à envahir le pays. Donc et puis ensuite il y a la période militariste, la période où effectivement le Japon se rapproche de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Et puis il y a l'analyse plus intéressante de la période moderne. Ce que dit bien le livre, c'est qu'il souligne d'abord que les Japonais sont assez méconnus, assez peu connus, et puis ils tiennent pas forcément à être très connus. Il dit que une des caractéristiques du japonais en tant que langue, c'est que le mot « je » n'existe pas. Il y a des façons de s'exprimer pour parler à la première personne. Et il dit, en fait, ils ont été vécu comme ayant utilisé l'économie pour se substituer à l'aventure militaire qui avait été celle de l'entre-deux-guerres et puis de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit c'est plus compliqué que ça, il y a une sorte de besoin de se réaliser et il n'y a pas d'agressivité naturelle chez les Japonais. Alors il identifie trois problèmes, le vieillissement de la population, ça c'est clair, le rapport au monde extérieur, il dit il y a de l'immigration au Japon, vous faites pas d'illusions, mais c'est à 48% c'est des Coréens dont on arrive à établir qu'ils ont des ascendants japonais. Donc il y a une forme d'immigration qui est une sorte de retour dans la mère patrie des gens qui étaient partis en Corée ou éventuellement en Chine. Et donc, il y a un rapport à l'autre quand même, à l'étranger, qui est assez à la fois timoré. Et puis, le troisième élément qui vient d'avant, c'est le fait que le Japon a un rapport avec les femmes, avec un certain nombre de structures qui est très conservatrice, un rapport très conservateur. Et donc, cette modernité qui est dans son économie a du mal à s'exprimer dans sa société. Alors, je ferai deux remarques sur le livre, sur la forme. Il y a beaucoup trop de citations, à mon avis. C'est-à-dire, il cite énormément de gens. Et puis, effectivement, après, je pense qu'il y aurait, là aussi c'est un problème de l'éditeur, il y aurait quelques quelques coquilles, quelques erreurs, par exemple au moment de la guerre russo-japonaise, il parle de négociations entre Tokyo et Moscou. À l'époque, Moscou n'était pas la capitale de la Russie. En fait, des choses comme ça. Il dit, Edith Cresson, quand elle était ministre des Affaires européennes en 1981, elle n'était pas ministre des Affaires européennes en 81, mais en 88. Bon, il y a des petites erreurs comme ça, tu aurais mérité une relecture, mais c'est un livre pour quelqu'un qui s'intéresse au Japon, qui est un livre qui est extrêmement important.
Est-ce qu'il va y avoir la dose d'économie dans ce livre que souhaite Christian Chavagneux ?
Je pense pas.
J'étais inquiet en vous entendant parler. Vous nous aviez vendu de l'économie.
Mais il y a de l'économie, mais il n'y a pas une dose effectivement susceptible de trouver de l'agrément chez Christian. Ça, je reconnais.
Oui, c'est vrai. C'est un livre qui veut nous faire découvrir ce monde. C'est vrai qu'on ne connaît pas bien, surtout quand on n'a pas vécu au Japon. Et en fait, paradoxalement, je pense que le livre s'adresse plutôt aux gens qui connaissent déjà le Japon. Parce que l'auteur passe d'un sujet à l'autre en nous disant, j'ai l'impression que si, j'ai l'impression que ça. En fait, les gens qui ont été au Japon peuvent dire, ah oui, là, je pense qu'il a raison, ça évolue comme ça. Ou alors, non, moi, je ne l'aurais pas dit comme ça. Pour moi, que j'ai mis les pieds au Japon, l'auteur dit, j'ai l'impression que, il m'aurait dit complètement l'inverse, j'aurais dit, c'est pareil. Ouais. Donc, j'ai aucun moyen d'accroche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de problématique, en fait. Les chapitres ne sont pas construits pour nous amener à une démonstration. On passe d'un sujet à l'autre, comme ça, en fonction des goûts et des intérêts de l'auteur. Il y a une petite problématique, quand même, qui sort de temps en temps, qui est-ce que le Japon d'aujourd'hui change par rapport au Japon d'hier, comme si, vous savez, l'Irakien est belliqueux, mais le Japonais est ambigu. Enfin, comme s'il y avait un essentialisme japonais à travers le siècle. Et moi, j'ai toujours du mal avec cette approche générale. Il nous dit, les Japonais travaillaient beaucoup, mais quand même, aujourd'hui, ils travaillent un peu moins. Mais enfin, ils quand même encore travaillent beaucoup quand même. les femmes, elles étaient toujours derrière. Mais aujourd'hui, les femmes prennent la parole au Japon. Enfin, elles restent quand même toujours un peu derrière. Enfin, on est balancé toujours à droite à gauche. Le summum de ça, c'est le dernier paragraphe du livre où l'auteur nous dit « La société japonaise évolue comme toutes les sociétés. » Dernière phrase, reste à savoir dans quel sens. Ah bah oui, celle-là, j'aurais pu l'écrire aussi, même sans aller au Japon. Justement, on voudrait que lui nous dise dans quel sens ça va. Et puis, comme l'a dit Jean-Marc, ou comme vous l'avez fait remarquer, Emmanuel, l'économie est quand même très, 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 très peu présente. Mais ça, c'est un problème qu'on a, enfin, que beaucoup de grands médias ont avec leurs correspondants locaux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de traiter de tellement de sujets, quand le sujet devient pointu, technique, comme l'économie, c'est bien plus difficile et ça se ressent dans ce livre.
Bon. Objet d'étude bien plus familier pour les Français avec votre choix. Christian Chavagneux, Blablacar et le livre de Fabien Ginisti, Blablacar et son monde, c'est aux éditions du Passager clandestin, ce qui ne manque pas de sel, je trouve, quand on parle de Blablacar. Allez, je me permets, ce trait d'humour un peu nul, c'est pas grave. De quoi s'agit-il, Christian?
C'est une enquête, vous l'avez dit, Emmanuel, tout le monde connaît la marque en France, mais on connaît peu l'entreprise. Donc c'est une enquête, j'ai trouvé au style assez enlevé, sur le modèle économique, ce qu'on pourrait appeler le modèle sociétal et le modèle écologique de Blablacar. Le modèle économique, il y a un peu d'histoire, je ne sais pas si vous connaissez Allostop, qui est une société qui a été créée en 1958, qui a fait du covoiturage avec des standardistes. On a appelé, on disait, j'aimerais bien aller de Paris à Rouen, et les chauffeurs appelaient en disant, moi, je veux bien prendre quelqu'un. Et standardistes appelaient et faisaient payer et prenaient une com pour faire ça. Et ça a explosé dans les années 70 avec l'augmentation du prix du pétrole. Et puis, ça marche bien. Et moi aussi, dans les années 80-90, et le gars fait pas la bascule du numérique. Et donc, va arriver Frédéric Mazzella, et qui lui, va dire, moi, évidemment, là, côté technique, je maîtrise. Et première clé du succès, il sait très bien s'entourer. On dit toujours, les entreprises, c'est des hommes, mais ça paraît trivial, mais c'est vrai. Et il sait très bien s'entourer. Il prend un directeur financier, il prend un développeur.
Est-ce qu'il connaissait l'histoire d'Allostop?
Oui, il connaissait Allostop.
Il raconte que c'est un jour de grève, je crois, où il cherchait à aller à Nantes, qu'il a eu l'idée.
Un projet de start-up plus général de quelqu'un qui s'est dit, il y a peut-être de l'argent à faire. Et moi, techniquement, je peux développer la chose. Et ensuite, il va commencer à faire en fait des plateformes pour les boîtes, pour Ikea, pour Bosch ou pour les collectivités locales. Et finalement, il va construire quelque chose qui va devenir assez gros. Il va rapatrier sur sa plateforme nationale, y compris les plateformes de collectivités locales qui étaient gratuites. Il va les passer sur sa plateforme payante, et comme il prend une position de monopole de plus en plus importante, la commission va monter, et aujourd'hui c'est jusqu'à 30, ça peut monter jusqu'à 30% d'un trajet. Pourquoi est-ce qu'il peut monter la com comme ça? C'est parce qu'il est en position de monopole. Pourquoi il est en position de monopole? Parce que dernier pilier du modèle économique, il arrive à faire des levées de fonds extraordinaires, il rachète tous les concurrents en France, enfin, pratiquement tous les concurrents en position de quasi-monopole en France et à l'étranger, sauf aux États-Unis, mais il rachète plein de monde. Qui dit levée de fonds, notamment auprès d'investisseurs, dit actionnaires. Qui sont les actionnaires de Blablacar? Eh ben, c'est très difficile à savoir parce que depuis 2009, la boîte ne publie aucun compte et aucun bilan. Elle paie des amendes parce que c'est interdit, mais elle préfère payer des amendes, petites amendes, plutôt que dévoiler. Et donc, si on veut avoir accès aux investisseurs, il faut aller à un truc très cher, très très cher réservé aux investisseurs, et l'auteur a réussi. à obtenir l'accès. Donc, on commence à avoir un petit peu d'informations. C'est le scoop du livre sur qui sont les vrais investisseurs de BlaBlaCar.
Et alors,
des fonds d'investissement qui sont situés à Jersey, au Delaware, au Luxembourg, des paradis fiscaux bien connus, et un fonds d'investissement russe immatriculé à Chypre. Quand on sait que c'est le moyen par lequel les oligarques et la mafia russe mettent l'argent en Europe, bon, il ne dit pas qu'il y a des oligarques ou de la mafia russe, mais il a l'enquête, il nous le dit, l'enquête mériterait d'aller un petit peu plus loin. Il y a une longue partie du bouquin sur ce qu'on pourrait appeler le modèle sociétal, qui est trop long par rapport à ce qu'il nous dit. En gros, il nous dit le modèle sociétal de BlaBlaCar, c'est on peut faire confiance à personne. D'ailleurs, venez chez nous parce que nous, on note les gens. Donc, vous voyez, vous aurez un petit peu moins loin. Et puis surtout, soyez pas généreux. Le covoiturage gratuit, c'est interdit chez nous. Mais encore plus intéressant, c'est la fin du livre sur le modèle écologique. Moi, le premier, je vous aurais dit, le covoiturage, c'est hyper écolo. Deux personnes dans une voiture, c'est plus écolo que deux personnes dans deux voitures. Sauf qu'en fait, trois quarts des gens qui font du covoiturage auraient pris le train à la place. Donc, en fait, il y a très peu de kilomètres parcourus en moins grâce au covoiturage. Et un tiers des gens qui font du covoiturage n'auraient pas pris leur voiture s'ils n'avaient pas eu un petit peu de sous de quelqu'un qui leur a... Donc en fait, il y a beaucoup moins de kilomètres, il y a très peu de kilomètres parcourus en moins par le covoiturage. C'est pas pour rien que BlaBlaCar a des accords avec Vinci, l'autoroute. C'est pas pour rien que Frédéric Mazzella est le conseil d'administration de Renault. C'est pas pour rien qu'il est en liaison avec Total, qui lui vend des certificats d'économie d'énergie à un prix qui défie, l'auteur montre que c'est complètement abracadabrant. Bref, c'est pas tellement écolo, c'est une économie du partage des miettes, dit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les gens qui prennent pas le train, c'est parce que c'est trop cher qu'ils prennent la voiture, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Par contre, ça va venir gonfler les résultats d'une entreprise en prenant un peu d'argent aux pauvres, et en plus, c'est pas écolo. Donc voilà le portrait qui est traité.
Au final, il permet de voyager à plein de gens qui n'auraient sans doute pas... C'est Jean-Marc Daniel, votre avis sur ce livre.
C'est 1% du covoiturage en France, parce que 99% est gratuit et fait sur des relations interpersonnelles.
Oui, enfin, je n'ai pas le même enthousiasme que notre ami Christian. D'abord, on apprend en fait pas grand-chose. Il y a la partie sur les actionnaires, effectivement, mais l'histoire et tout ça, on avait d'ailleurs lu le livre de Fred Mazzella.
Vous aviez déjà critiqué
le livre de Fred Mazzella lui-même, et l'essentiel de ce qu'il raconte, c'est ce que racontait déjà Fred Mazzella. Et donc, d'ailleurs, il agit au nom d'un site enfin qui s'appelle L'Âge de Fer, et donc il se définit comme étant libre et joyeux sur ce site,
et j'ai trouvé et on ça... le sent dans le style.
Mais j'ai trouvé ça plutôt assez sinistre, parce qu'il y a quand même à un moment donné, il dit le monde de Fred Mazzella, c'est le monde de 1984. On arrive à ce genre de formule. Et c'est-à-dire, il y a une espèce de réquisitoire sur Fred Mazzella, présenté comme un monstre de cynisme, et effectivement, toute la partie sur l'écologie, mais détrompez-vous, en réalité, ça augmente le nombre de gens qui vont prendre leur voiture, parce que grâce à ça, c'est un argument qui est un argument extrêmement fallacieux. Enfin, on ne sait pas si les gens, parce qu'ils font du covoiturage, se mettent soudain à voyager davantage. De même qu'il dit, il tue la concurrence. Alors, il prend un exemple, il y a un parcours sur Grenoble, et il dit, il y a des gens qui sont susceptibles de proposer autre chose gratuitement qui s'appelle Covoiturage Libre, qui est une plateforme qui existe. Et il dit d'ailleurs Paris-Grenoble, effectivement, on trouve 80, moi je fais mon truc, je trouve 85 propositions pour aller de Paris à Grenoble, donc je peux aller par... Mais il y en a aussi sur Covoiturage Libre, donc je peux aller sur Covoiturage Libre. Mais pas du tout. Fred Mazzella a quand même tué le marché avec ses 85 propositions. Il est sûr de l'emporter sur l'autre, puisqu'on va trouver dans les 85 des gens qui correspondent mieux à ce qu'il y a sur covoiturage-libre.fr. Donc, il y a une accumulation d'informations qui sont déformées, tordues. Sur les actionnaires, il y a un moment donné, c'est quand même parmi les principaux actionnaires, il y a effectivement un fonds chypriote. Et puis, depuis le fait que Fred Mazzella a récupéré les quarts de la SNCF, il y a aussi la SNCF qui est dans les actionnaires. Et la SNCF, effectivement, qui est un actionnaire actif, qui est un actionnaire qui assume pleinement son rôle. Et donc, Fred Mazzella est présenté comme un monstre, mais avec la complicité, quand même, d'une entreprise publique qui remplit le service public.
On sait pourquoi. C'est parce que sûrement, au moment où les bus de la SNCF ont été cédés, ça n'a pas été payé, c'était payé en action.
C'est en action.
Pour ça. Moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, il trouve que c'est une super bonne idée. Mais qu'en gros, ce serait mieux si c'était nationalisé, quoi.
Si c'était nationalisé.
C'était pas en position de monopole, en tout cas. Pas en position de monopole.
Même sur le monopole, il y a deux ou trois paragraphes où il pose la question de savoir s'il n'y a pas, dans l'économie moderne, à cause des rendements croissants, un mécanisme the winner takes all.
Bon, donc. C'est l'effet de réseau.
C'est l'effet de réseau. Bon, alors, on connaît bien, tout ça est documenté, mais il répond pas à cette question. En revanche, effectivement, vous savez, ils sont complices de Total. Total, vous vous rendez compte, Total, c'est des monstres. Total, vous voyez ce que c'est que Total. Et donc, tout ça, il gagne de l'argent. Mais on sait que dans le capitalisme, on gagne de l'argent. En fait, c'est l'histoire d'Adam Smith, le boulanger. Il gagne de l'argent, mais il vous rend un service. Donc, tout ça est un procès qui est un procès qui est très artificiel. Et contrairement au titre, c'est pas aussi joyeux que le site dont vous pourriez l'espérer.
Eh ben, voilà un beau débat. Merci à tous les deux. Eh bien, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire du jour. Vous ne bougez pas, Jean-Marc Daniel.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et notre bibliothécaire du jour, mais oui, c'est lui, il reste avec nous, Jean-Marc Daniel. Bienvenue Jean-Marc dans cette rubrique. C'est la première fois que vous assurez cette rubrique, je crois. Mais pour une très bonne raison, c'est que vous allez nous parler d'un ouvrage qui vient de sortir, Napoléon III et l'économie, par le spécialiste Éric Anceau et Pierre Brandas. C'est aux éditions du CNRS. Et en fait, si vous nous en parlez, c'est parce que ce sont surtout des extraits d'un colloque auquel vous avez participé, Jean-Marc.
Exactement, oui. Alors, le colloque était prévu pour septembre 2020. Pourquoi septembre 2020? Parce que c'était 150 ans après la fin du Second Empire. Le Second Empire s'arrête en septembre 1870. Et puis, en septembre 2020, je rappelle quand même qu'on pouvait pas mieux se réunir. Et donc, le colloque a eu lieu en mai 2022. Ce qui n'a pas nui à sa qualité, puisque il y a des contributions qui sont, à mon avis, de très bon niveau. Je ne parle pas de la mienne, je parle de celle des autres, sur cette période très particulière qu'est le Second Empire. Vous l'avez dit, Éric Anceau, c'est le grand spécialiste du Second Empire. Pierre Brandas, c'est quelqu'un qui vient de la Fondation Napoléon. La Fondation Napoléon ayant vocation à s'intéresser aussi bien à Napoléon Ier qu'à Napoléon III. Et c'est la Banque de France qui organisait ça, puisque la Banque de France a été créée par un Napoléon et elle a changé de mission sous Napoléon III.
Alors, il faut quand même refaire un peu le bilan économique de Napoléon III, qui, même s'il commence à être bien connu, est toujours un peu sous-estimé, finalement.
Oui, il est assez sous-estimé. Et en général, on a deux ou trois idées sur Napoléon III. C'est Haussmann. Ouais. C'est, donc, il y a d'ailleurs un article qui explique que non seulement il a restructuré Paris, mais c'est aussi Baltard. C'est-à-dire que c'est les Halles de Baltard, c'est l'église Saint-Augustin qui était prévue pour être le tombeau des Bonaparte. Et c'est toute une réflexion sur l'aménagement, effectivement, de Paris, avec l'idée qu'il faut qu'il y ait des égouts qui ont commencé sous Louis-Philippe avec Rambuteau, qu'il y ait effectivement des chemins de fer qui permettent d'accéder au centre de la ville.
Ouais, on le retient comme un modernisateur
de l'infrastructure de Paris. Ce qu'explique assez bien l'intervenant, c'est que Lyon aussi a été concerné, Marseille un peu moins. Donc, il y a eu un projet sur urbain. Ce qu'explique aussi le livre, c'est que il y avait un projet industriel avec les chemins de fer au centre de ce projet industriel, mais il y avait aussi un projet agricole. Il y a un des papiers sur la politique agricole de Napoléon III, et notamment sur la création de la forêt des Landes. Les Landes, c'est pas une forêt au départ, les Landes, c'est des Landes, c'est-à-dire c'est une sorte de marécage, et ça va devenir un des principaux producteurs de bois de l'Europe. Ça va relancer d'ailleurs l'activité, ce qu'explique l'article, portuaire de Bordeaux et de Bayonne, parce que il va y avoir là une source à la fois de la sève de pin et puis de bois à une époque où le bois est en train de devenir un élément de construction.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes, qui vous ont surpris, que vous ignoriez sur le plan économique?
Sur le plan économique, moi, j'ai deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est effectivement sur le libre-échange, le fait que le libre-échange de Michel Chevalier, dont on parle beaucoup au travers du traité avec le Royaume-Uni, était pas uniquement tourné vers le Royaume-Uni. Il y avait une vraie démarche idéologique de Napoléon III et de son entourage, et il a eu le courage d'aller dans cette démarche idéologique. Vous savez, il y a Michel Chevalier, s'est rappelé, qui va voir Victor Cousin, qui est un des grands penseurs libéraux de l'époque, et Victor Cousin lui dit « Je suis libéral, mais je suis pour le protectionnisme, parce que le libre-échange, on y est favorable quand on est économiste, le protectionnisme, on y est favorable quand on est patriote. » Et donc, ce qu'explique bien l'article, c'est que Michel Chevalier démontre que, effectivement, le libre-échange, c'est pas uniquement une question d'économiste. Et puis, la deuxième chose, c'est dans mon papier, donc, j'ai découvert, j'avais entendu parler de lui, mais dans les détails, Charles de Germigny, qui est le nouveau gouverneur de la Banque de France, donc, qui est nommé dans les années 1850. En 1857, il y a une crise. Le mot crise apparaît d'ailleurs à cette époque-là. Il est dans le circuit depuis les années 1820, mais c'est le dictionnaire d'économie politique qui est publié en 1854 qui a, pour la première fois, une entrée crise. Et c'est l'époque où Juglar publie un livre sur les crises Juglar, le cycle de Juglar et tout ça. Et Charles de Germigny va définir un nouveau rôle à la Banque de France qui n'est pas uniquement de gérer la quantité de monnaie, mais qui est aussi de répondre aux besoins du système monétaire et financier et donc d'avoir une action contracyclique, d'une action contre la crise. Et donc c'est la première fois sous Napoléon III que on passe d'une crise qui était avant des crises essentiellement agricoles, des crises de sous-production alimentaire, à des crises industrielles auxquelles la Banque de France va devenir un des acteurs.
Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotteur du jour. Et là aussi, c'est un casting original, vous allez voir.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Et oui, puisque c'est Frédéric Simotel qui nous fait part cette semaine de sa moisson glanée à travers le monde entier. Alors, cette semaine, Frédéric, on reste sur la thématique de l'intelligence artificielle avec un livre et un article. Le livre, c'est « The Algorithm » qui nous entraîne dans les coulisses du recrutement par l'intelligence et puis l'article d'un magasinisation de ChatGPT par les étudiants.
Oui, exactement. Alors, démarrant avec le livre, The Algorithm, voilà, bon, on le sait, hein, c'est la base de l'informatique et notamment de l'intelligence artificielle. C'est écrit par une journaliste, Ilke Schellmann. Ilke Schellmann, c'est une, elle pige pour beaucoup de grands journaux, Wall Street Journal, MIT Technology Review, Guardian. Elle est professeure de journalisme aussi à l'Université de New York. Et puis, elle aime bien être, c'est une journaliste d'investigation, donc elle aime bien se noyer un peu dans tout ça. Et donc, la baseline de son livre, c'est l'IA ne vous volera pas votre emploi, mais elle pourrait t'empêcher d'être embauchée.
Alors, pourrait vous empêcher d'être
embauchée. Voilà, et donc elle a mené une enquête parce qu'elle s'est rendue compte que toutes les entreprises, mais chez nous c'est pareil, hein, utilisent des logiciels de recrutement pour gérer les CV, pour gérer les lettres de motivation, pour gérer les fiches de poste, et que de plus en plus, bben forcément, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup de d'arbres de décision, et quoi de mieux que l'intelligence artificielle pour faire ressortir un peu les CV dont on a vraiment besoin. Mais justement, elle va s'intéresser à tout ce qui concerne les biais que peuvent avoir ces intelligences artificielles sur la discrimination. Alors on a plein d'exemples en tête, hein, on sait que ça existe, et ces logiciels sont censés pourtant avoir accumulé tellement de données.
Oui, parce que j'imagine que les éditeurs de logiciels RH, ils vont un peu s'étrangler livre.
C'est un peu ça, voilà. C'est parce qu'elle dévoile vraiment tout. Vous avez des CV aux États-Unis, on va dire, tiens, l'IA va voir que dans l'entreprise, parce qu'elle va comparer les données qui sont déjà dans l'entreprise, les gens jouent beaucoup au baseball ou au softball. Alors elle va choisir plutôt baseball ou softball, très bien. Ouais. Mais qui joue au baseball? Les hommes qui jouent au softball? Les femmes? Donc si dans l'entreprise on est à 80-20, d'hommes et de femmes, ben dans les recrutements, l'IA va se baser un peu là-dessus. Et donc, elle cherche un peu des bonnes pratiques. Et donc, évidemment, tous les éditeurs s'inquiètent un peu parce qu'ils disent, mais nous, nos logiciels n'ont pas du tout de biais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, elle va dire, écoutez, elle est allée lire dans les petites lignes de certains logiciels qui vont dire, nous, pour entraîner notre base, on est allé voir des étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans pour essayer de définir des postes et tout ça. Donc, ça correspond pas vraiment à la réalité. Elle estime aujourd'hui que 500 000 personnes n'ont pas eu le poste escompté justement à cause de ces IA. Elle explique aussi que rien n'est indiqué pour les travailleurs handicapés. Ce qui transparaît aussi dans les livres, c'est que les recruteurs font de plus en plus confiance un peu. Cette IA, elle est tellement performante.
On fait confiance à l'outil
et puis on réfléchit plus. Et comme ils utilisent des technologies des systèmes de neuronaux profonds, donc un peu à l'image de notre cerveau, aller expliquer ça, la transparence, aller expliquer comment l'algorithme fonctionne, on n'y arrive pas.
Est-ce que ces biais, Frédéric, alors on a bien compris qu'ils défavorisaient beaucoup de candidats, mais est-ce qu'à contrario, il y a des candidats qui sont favorisés par ces biais?
Eh bien oui, parce qu'il y a les candidats, ils ont compris comment ça marchait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer le descriptif du poste, ils vont rentrer leur CV.
Jean-Marc Daniel, par exemple, il joue au baseball.
Il y en a d'autres qui en profitent.
Bah justement, ils vont rentrer les datas du descriptif de la fiche de poste, ils vont rentrer leur CV, puis on dit, tiens, fais-moi un match, mais alors, fais-moi quelque chose où je ne reprends pas exactement les expressions, ce qu'on faisait, nous, plus jeunes, on reprenait exactement, moi aussi, je suis compétent dans tel domaine, mais là, on demande à l'IA de refaire un peu la lettre de motivation, de refaire la lettre de CV, mais avec des différences par rapport à la fiche de poste. Et ça, c'est assez astucieux, donc ils réussissent aussi à tromper ennemi, tout quoi. Ça. Ouais. Et puis, la conclusion de son livre, c'est quand même de dire, ce serait quand même bien qu'une certaine régulation autour de ces logiciels, parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est que ces logiciels sont vraiment la base de l'enquête l'entrée dans les entreprises.
Et très vite, donc, si Frédéric, le deuxième, enfin, l'article dont vous vouliez nous parler, oui, parce que sur les étudiants américains et leur utilisation de ChatGPT.
Oui, ça c'est assez incroyable. C'est un outil qui a tourné pour voir s'il y a beaucoup d'articles produits par les étudiants.
C'est un article du magazine
Wired. Oui, voilà. Alors ils ont un outil qui tourne pour détecter tous ceux qui utilisent un peu l'IA générative. Et ben on se rend compte que sur 2023, 22 millions d'articles, soit 11% à peu près de la production des étudiants américains, a utilisé de l'IA générative. Ah ouais. Alors il y en a que 3% qui sont allés à 100%, enfin qui ont pris. Que l'article est fait par l'IA générative. Mais il y a quand même 11% c'est 200 millions d'articles faits d'une façon générale, et parmi eux, c'est 11% qui sont faits grâce à l'IA générative. Et ça fait 20 millions d'articles quand même qui sont utilisés par les étudiants. Et là, le risque, on le sait, hein, c'est d'avoir des réponses qui se ressemblent, c'est de trouver de perte un peu de créativité. Et aujourd'hui, c'est un outil qui va même être utilisé par certains journaux, justement pour repérer un peu les sources qui sont dicté un peu par l'IA générative. Et je trouvais que ce chiffre de 22 millions d'articles générés par de l'IA générative, c'était important pour qu'on le signale ici.
Merci beaucoup Frédéric Simotel. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Alors j'ai choisi un livre qui s'appelle « L'avenir appartient aux PME ». L'auteur, c'est Bernard Cohen Haddad, personnage connu qui intervient assez souvent d'ailleurs sur nos antennes, qui est un responsable de PME, qui est responsable de la CPME en région Île-de-France et qui est un grand défenseur justement des PME. Et donc là, il a écrit un livre qui paraîtra le 17 avril. Hein, pour les gens qui sont impatients, il faut attendre le 17 avril pour l'avoir en librairie, qui est une sorte de chant d'amour de à l'égard des PME, en disant, écoutez, les PME, elles jouent un rôle, tout le monde le dit, considérable, mais il faut que ça se concrétise. Donc, il dit, voilà quels sont les enjeux, voilà comment nous fonctionnons, voilà ce que nous attendons de nos dirigeants, voilà ce que nous attendons du système économique. Donc, c'est simple, direct, et ça mérite tout à fait d'être lu.
Christian Chavadieu, votre dernier choix.
On parle ces dernières années de la mondialisation entre amis. Est-ce que et la fragmentation géopolitique a des impacts économiques ? Une note du Fonds monétaire international qui s'est intéressé au sujet. Oui, quand on découpe le monde en trois blocs, en gros le monde occidental, le monde Chine, Russie et les alliés, le monde des non-alignés entre guillemets, on s'aperçoit que les échanges commerciaux et d'investissement entre les blocs diminuent, alors qu'à l'intérieur des blocs, ça augmente. Ouais. Par contre, ils font petite chose intéressante. Ils le comparent à la guerre froide, au moment des blocs de la guerre froide. Et là, on est très, très loin quand même de la séparation qui avait lieu au moment de la guerre froide.
Il y avait très peu de liens économiques à l'époque.
Non seulement il y avait très peu de liens, mais en plus il y avait des organismes qui vérifiaient ce qu'on exportait vers le bloc de l'Est, et symétriquement dans le bloc de l'Est, il y avait le Comecon avait une liste des produits dont il autorisait l'exportation.
Formidable. On va lire ça avec intérêt. Bien sûr, comme d'habitude, merci beaucoup. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.